Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le microéconomique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le format de l'émission, nous allons dans un premier temps poser la même salve de questions que d'habitude à un économiste, avant de l'interroger plus avant sur son domaine de spécialité dans un second temps.
Bonjour Monsieur Stardignac, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ?
Je m'appelle Henri Stardignac, j'ai 62 ans, je suis économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et par ailleurs, je suis co-animateur des économistes atterrés.
D'accord. Si vous deviez choisir un seul objectif politique à atteindre, lequel serait-il ?
Un objectif politique ?
Ou économique ? Enfin, de politique économique.
C'est de faire évoluer la société française vers une société sobre, écologique, solidaire, égalitaire, de limiter les inégalités sociales, les inégalités de statut.
D'accord. Quand vous jugez une mesure politique, à l'aune des intérêts de quel groupe est-ce que vous la jugez ?
Disons des classes populaires.
D'accord. Quelle mesure politique défendez-vous ?
Il y a un S à mesure ?
Oui.
toutes les mesures qui vont dans le sens d'abord de développement de la protection sociale, les mesures qui vont dans le sens de l'augmentation de l'influence des salariés dans la conduite des entreprises, les mesures qui vont dans le sens de la transition écologique, ce genre de mesures.
D'accord. Est-ce que vous êtes pour un revenu de base, revenu de subsistance ?
Pas vraiment, pas vraiment. Je pense qu'il faut un système de protection sociale qui soit cohérent avec des systèmes généreux en matière de retraite, en matière de maladie, en matière de famille, en matière d'allocation logement. Par ailleurs, il faut des revenus minimums différenciés pour les personnes âgées, pour les familles, pour les femmes seules. Il ne faut pas un revenu de base qui permettrait de réduire et de décomplexifier la protection sociale. Je suis pour une protection sociale compliquée et généreuse.
D'accord. Est-ce que vous êtes pour un revenu maximal mondial ?
Oui, je suis bien sûr pour un revenu maximal, sachant que naturellement, le concept du revenu maximal est un peu saugrenu. Je suis d'abord pour que dans les entreprises, effectivement, on diminue la hiérarchie des salaires, que le patron ne gagne pas plus que 10 fois le SMIG. Et par ailleurs, je suis pour que progressivement, l'investissement soit socialisé, que une partie importante des profits soit récupérée par la fiscalité et soit utilisée pour investir de manière socialement justifiée. Et donc, ainsi, on diminuerait l'importance du capital dans la conduite de l'économie.
D'accord. Alors, en ce qui concerne la création monétaire, pour l'instant, elle a toujours été créée par la dette. Est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce que vous penseriez d'un système où une partie où tout l'argent serait créé par le don et que on donnerait la monnaie nouvellement créée on l'attribuerait démocratiquement.
Je trouve ce projet stupide.
Pourquoi ?
Parce que la monnaie est obligatoirement une dette. Donc, la monnaie doit être créée comme une dette. Soit, d'abord, les entreprises ont besoin de crédit. Il faut du crédit pour lancer la production chaque jour. Donc, on ne peut pas renoncer au rôle de création monétaire par les banques. Et par ailleurs, l'État possède la banque centrale. Et donc, la monnaie est obligatoirement une dette publique. Et donc, le projet que vous dites serait simplement de dire la la contrepartie de la monnaie serait de la dette publique. Mais d'un coup, ça ne règle pas la question qu'on a besoin de crédit pour les entreprises, et ça ne règle pas la question de vous mélanger, le projet mélange deux choses. Hein. D'un côté, effectivement, on a besoin de prestations sociales, ces prestations sociales doivent être financées d'une certaine façon, et de l'autre côté, on a besoin de monnaie, mais les deux besoins n'ont rien à voir, et on ne peut pas mélanger ces deux rôles dans la société.
D'accord.
En plus, se pose la question, je ne sais pas ce que vous appelez monnaie dans cette phrase, quoi. Donc, la notion de monnaie est très ambiguë, je ne sais pas ce que c'est que la monnaie. Donc, est-ce que par monnaie vous entendez les billets? Est-ce que par monnaie vous entendez l'ensemble des dépôts? Est-ce que par monnaie vous entendez les actifs financiers? Donc je suis pas... Je pense que cette proposition est extrêmement confuse.
D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à une démocratie mondiale sur certains domaines, comme l'environnement ou la régulation financière?
Théoriquement, oui. Pratiquement, non. C'est-à-dire qu'on peut être favorable pour une démocratie mondiale, mais concrètement, comment vous la... Je vois pas comment concrètement... on l'a fait marcher, quoi. Donc je veux bien être pour, mais le problème c'est que ça marche très difficilement, voilà. Mais je suis effectivement pour en matière d'environnement, effectivement il faut se partager des ressources rares, et donc il est légitime de dire les efforts doivent être faits par les pays qui actuellement sont les plus riches, et donc naturellement ça pose une question délicate qui est comment on impose aux pays riches de payer la facture en matière d'environnement. En ce qui concerne les questions financières, il est très dur de définir ce que c'est qu'une démocratie mondiale en la matière. Mais...
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose avec laquelle tout le monde serait d'accord?
J'espère que non.
Est-il important d'augmenter le PIB?
Non, plus maintenant. Ce qui est important maintenant, c'est d'imaginer une évolution économique qui fasse que on réponde au défi qui est la finitude de notre planète et le nombre croissant d'individus. Et donc, dans cette optique, il faut modifier notre manière de produire, notre manière de consommer, avec cette contrainte en vue. Donc, augmenter le PIB n'est pas un objectif. Ce qui est un objectif, c'est de satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux ou pas fondamentaux des habitants de la planète, et puis de modifier ces besoins pour qu'ils deviennent compatibles avec la contrainte écologique. Donc la question du PIB de ce point de vue-là n'est pas essentielle.
D'accord. Alors quel livre d'économie conseillez-vous?
Oh, je ne sais pas. Le Éloge de la paresse de Lafargue conseille à nos petits-enfants de pensée économique pour nos petits-enfants de Keynes. Mais c'est pas vraiment des réponses sérieuses. Mais c'est voilà, ce qu'on peut avoir envie de répondre.
D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait de l'enseignement de l'économie à l'université? Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait un enseignement plus pluraliste?
Bien sûr, il faudrait un enseignement plus pluraliste. Mais l'économie a été tuée par l'économétrie, par la fausse scientificité. Donc, oui, bien sûr, il faudrait un enseignement plus riche et plus diversifié. L'économie, c'est beaucoup de questions politiques, beaucoup de questions sociologiques, beaucoup de questions d'organisation sociale et qui sont pas résolvable par l'économétrie et la modélisation. En même temps, bien sûr, le problème, c'est qu'on a besoin d'un substrat scientifique, on a besoin de statistiques, on a besoin de les mettre en forme, de les penser, on a besoin de penser les modèles. Et donc, il faut un équilibre qui est souvent difficile à trouver. Les bons travaux économiques, c'est pas simple parce que souvent, ce qui est important du point de vue des grandes revues, c'est une scientificité factice. Et ce qui est important pour les vrais économistes, pour les citoyens, c'est la pertinence, qui est quelque chose de différent. Mais bon, l'économie telle qu'elle se pratique et telle qu'elle est enseignée, ben c'est souvent un jeu intellectuel, hein. Voilà. À certains moments, on peut trouver ça drôle, d'autres moments, on peut trouver ça un peu tristounet.
Comment s'organise votre journée type?
Ben, elle s'organise pas, voilà. Ma journée type ne s'organise pas. J'arrive le matin persuadé que je vais écrire quelque chose sur tel ou tel sujet, et puis il y a des journalistes qui vous sollicitent tout au long de la journée, ou des étudiants, et donc voilà, vous déviez tout au long de la journée, et puis
Est-ce que vous
c'est
travaillez
comme ça.
beaucoup?
Oui, pas mal, oui. Mais mon grand défaut, c'est que je ne sais pas, je ne suis pas concentré, donc je me laisse facilement détourner vers des préoccupations d'actualité. C'est comme ça. Aujourd'hui, les remontrances que Bruxelles a fait à la France, il faudrait réagir. On a le programme, je sais plus comment ça s'appelle, la prime d'activité que le gouvernement va sortir demain. Voilà, c'est des points d'actualité auxquels il faudrait penser, réfléchir, et ça détourne de travaux plus de fond. Donc la vie, c'est un arbitrage perpétuel entre l'idée, il faut investir, il faut faire des travaux de fond, et puis l'actualité qui oblige à réagir.
Alors, quel est le travail le plus intéressant que vous avez fait?
Mon Dieu, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon premier travail s'appelait du côté de l'offre de monnaie et essayait de détruire la notion de monnaie, montrer que la monnaie n'existe pas lorsque mettait la monnaie dans une théorie des actifs financiers pour dire qu'il n'y a aucune raison considérer qu'il existe un actif fabuleux qui s'appelle monnaie et qui joue un rôle central dans l'équilibre macroéconomique, l'article antimonétariste. Je considère que c'était une sorte de chef-d'œuvre. Voilà. Et après j'ai écrit un livre sur les retraites que je trouve pas mal non plus. Et voilà.
D'accord. Alors justement, on va passer donc à votre domaine de spécialité. Donc la première question que je vais vous poser, c'est à propos des... Parce que dans les années 80, vous avez conçu des modèles pour modéliser l'économie française et même mondiale. A posteriori, est-ce que ces modèles ont eu des prédictions justes ou est-ce qu'ils se trompaient?
Se trompait complètement. Voilà.
D'accord. Donc c'est qu'est-ce que vous pensez du fait de faire des modèles?
Non, les modèles permettent de comprendre les réactions à court terme de l'économie, et ils permettent aussi d'avoir un discours cohérent sur la politique économique. Hein, par exemple, quand vous prenez la question des politiques d'austérité qui ont été mises en place depuis 2010, bah, les modèles, malgré toutes leurs limites, permettent de dire que bah, ces politiques d'austérité sont complètement stupides. Ça va coûter énormément en termes d'activité et ça va rien rapporter, très peu, en termes de dette publique. On ne peut pas résoudre une question structurelle comme le déficit de demande en s'attaquant aux instruments qui permettent de réduire les déficits de demande. Et donc, de ce point de vue, les modèles sont utiles. Les modèles sont utiles parce que les modélisateurs acquièrent, et les conjoncturistes acquièrent une connaissance précieuse des évolutions conjoncturelles. Ils ne croient pas au choc de productivité, etc., etc. Donc c'est important. Par contre, effectivement, tout ce qui est l'évolution à moyen terme de l'économie mondiale, le fait qu'on a connu une très forte croissance impulsée par l'exubérance financière avant 2007, et puis ensuite que ça s'est effondré avec la crise et qu'ensuite on soit incapable de repartir, ben les modèles ne pouvaient pas le prévoir en 2000 ou en 2005. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire ils sont plantés. Hein. Mais bon, voilà. Les modèles, si vous regardez un élément comme le prix du pétrole, les modèles sont incapables de prévoir l'évolution du prix du pétrole qui est très important pour l'économie mondiale. Et puis les modèles ne pouvaient pas prévoir la bêtise de la politique européenne, c'est-à-dire qui aboutissent à faire une zone euro complètement stupide, incapable d'avoir une politique cohérente. Donc la modélisation telle qu'on le faisait, c'est utile pour le court terme, mais ça a des limites. Parce qu'une grande partie de l'évolution économique s'est dictée par des facteurs d'économie politique, des facteurs politiques, que le jeu des acteurs qu'on a extrêmement du mal à prévoir.
Alors pour enchaîner sur la zone euro, quelle gouvernance de la zone euro est-ce qu'il faudrait mettre en place?
Je peux vous faire deux réponses. La première, qui est sérieuse, consiste à dire la zone euro n'est pas gouvernable. Donc la question n'a aucun sens, parce que la zone euro, c'est un ensemble de pays qui sont différents, qui ont des intérêts différents, des besoins différents de politique monétaire, qui ont des visions différentes du fonctionnement de l'économie. Et donc, ça ne peut pas être gouverné. Quand c'est gouverné, ben, on aboutit à des stupidités du genre faire voter le Parlement allemand sur les politiques économiques qui doivent être mises en œuvre en Grèce, ou ce qu'on voit actuellement où la Commission européenne veut imposer des politiques d'austérité à la France qui n'en a absolument pas besoin. Et donc, on ne peut pas gouverner un machin qui est mal foutu. Une fois cette réponse sérieuse faite, je peux vous faire une autre réponse consistant à dire ben pour gouverner la zone euro, ben il faut changer complètement d'orientation des politiques économiques. Il faut que l'ensemble des pays soient d'accord pour dire on a des objectifs qui sont le plein emploi et la résorption des déséquilibres. Et puis, on va mettre en œuvre une stratégie coordonnée à l'échelle des pays pour aller vers cet objectif. Mais vous voyez que la stratégie coordonnée, ça suppose que les pays soient d'accord sur le fonctionnement de l'économie, à la limite, que tous les pays soient d'inspiration keynésienne, alors qu'actuellement, bah, ce qui domine, c'est une inspiration libérale. Et puis, d'autre part, ça suppose que les pays acceptent de remettre en cause leurs objectifs. Donc on a par exemple des pays au nord de l'Europe qui considèrent que leur objectif c'est d'accumuler des excédents. Et ben ça déséquilibre complètement l'Europe. Et donc et puis on a des pays du sud qui n'ont pas la capacité à gouverner leur pays de manière satisfaisante, Et donc, quand on met tout ça ensemble, vous voyez, c'est très dur. Donc, le problème de la zone euro, c'est que ça déresponsabilise les pays. Et donc, c'est très difficile à gouverner, hein. Il n'y aurait pas la zone euro. L'Allemagne serait confrontée à son problème spécifique. C'est un pays vieillissant qui veut accumuler des excédents, bah, qui se débrouille pour le faire. Et puis, les pays du Sud seraient confrontés à leurs problèmes. Ils devraient accepter un taux de change beaucoup plus bas. Et puis, voilà, et se poser la question de leur insertion dans l'économie mondiale. Voilà, et le fait qu'il y ait de la zone euro fait que les pays n'ont pas l'autonomie nécessaire pour être responsables de leur politique. Et donc c'est une zone qui est très difficile à gérer, à gouverner, comme vous dites.
Et alors, est-ce que vous êtes pour la fin de la zone euro?
En toute logique, oui. Toute logique, oui. En toute logique, oui. C'est un truc qui ne marche pas. Bon. On peut toujours croire à un miracle, mais peut-être que ça ne marche pas. Hein, c'est comme,
Est-ce que
vous vous
vous...
rappelez, quand l'Argentine a dit ben, je maintiendrai la parité 1 peso égale 1 dollar, c'était tout à fait sympathique, mais ça n'a pas tenu. Et donc le problème, c'est est-ce qu'on peut tenir avec des pays qui sont absolument, qui n'ont pas les mêmes besoins en matière de politique monétaire?
Mais. Est-ce que vous êtes donc pour la fin de l'euro parce que vous pensez que c'est impossible d'aboutir à un fédéralisme européen et une politique économique commune?
Exactement. Je pense qu'il est impossible
D'accord.
d'aboutir à une politique économique
D'accord.
commune
Mais si on pouvait, ça serait
entre
préférable.
des pays qui sont malheureusement différents. Et donc, voilà, donc les pays sont différents. L'idée que les pays vont converger, qui est une idée sympathique, bon ben, le fait est que ça marche pas. Donc, il faut bien à un moment donné se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, on peut toujours imaginer un fédéralisme bienveillant où effectivement on réussira à mettre en place des institutions bienveillantes qui réussiraient à effectuer cette convergence de manière sympathique. Le fait est que ça marche pas, tant sur le plan macroéconomique que sur le plan microéconomique. Et donc, on peut être assez pessimiste.
Bon, donc on va passer au cas de la France, puisque vous avez beaucoup travaillé sur la protection sociale. Je vous interrogeais sur les retraites d'abord. Quel système envisagez-vous pour les retraites?
J'envisage pas de système, hein.
Alors,
Je veux dire, je n'envisage pas de système.
enfin,
Voilà.
alors,
Le
dans ce cas, enfin, est-ce que vous pouvez résumer votre livre sur les retraites?
y a quelques années, donc nous avons eu une offensive pour mettre en cause le système français, qui est un système par répartition. Des gens qui disaient ben, le meilleur système, c'est un système par capitalisation, c'est un système qui a une rentabilité beaucoup plus grande. Et donc, la thèse que j'ai soutenue, c'est qu'il faut maintenir un système par répartition, un système qui assure à tous les salariés, les salariés normaux, un niveau de vie satisfaisant au moment de la retraite. Correspondant à celui des actifs et à partir d'un âge raisonnable, l'âge auquel les entreprises ne veulent plus les employés. Que ce système peut être maintenu, on peut garantir aux jeunes qu'effectivement on maintiendrait ce système, que les jeunes auront naturellement leur retraite un peu plus tard parce qu'ils vieilliront, ils auront une durée de vie, une espérance de vie plus longue. Et que donc ce système, on peut le maintenir en faisant évoluer le système français vers plus d'équité entre les différents régimes, et puis en maintenant le principe pour la retraite, comme pour la famille, comme pour la maladie, comme pour le chômage, d'un système protecteur et relativement généreux.
Est-ce qu'il faut faire converger les différents régimes?
Théoriquement, oui, pratiquement, non, parce que les systèmes sont pas très. Il n'y a pas de système qui soit. Il faut éviter que des systèmes soient trop généreux. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas dans la fonction publique. Bon, il y a certaines inégalités qui existent pour certaines grandes entreprises, la SNCF, la RATP, la Banque de France, mais qui petit à petit vont disparaître. Et il n'y aura pas, il y aura pas de, il y a pas de, de réforme miracle dans laquelle on va sauver les retraites tout simplement en s'attaquant à la retraite du public ou aux retraites aux régimes spéciaux. Hein. D'un côté, effectivement, il faut vérifier que les systèmes ont à peu près la même générosité, et puis de l'autre, il faut garantir les systèmes d'un côté, la hausse des cotisations, et puis de l'autre, un recul raisonnable de l'âge de la retraite, et puis enfin, il faut maintenir un niveau satisfaisant des retraites publiques.
D'accord. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que le taux de cotisation soit décidé par chacun dans une fourchette
Non.
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 Pour quelle raison?
Je ne sais pas ce que vous appelez chacun.
Enfin, que chaque travailleur décide combien il cotise?
Non. Non, non. Parce que tout simplement, les personnes n'ont pas la capacité à prévoir ce genre de choses, et donc on peut pas leur donner ce droit, et les gens ne souhaitent pas avoir ce droit. Je pense que vous connaissez l'histoire de Ulysse et les sirènes. Ulysse veut être attaché parce qu'il ne veut pas pouvoir avoir la liberté de suivre les sirènes. Dans un certain nombre de domaines sociaux, il ne faut pas laisser le choix aux gens. C'est à l'État, c'est à la société de garantir aux gens qu'ils auront une retraite satisfaisante en cotisant un montant socialement décidé. Les gens ne se rendent pas compte des besoins qu'ils auront au moment où ils arriveront à la retraite, ils ne se rendent pas compte de l'espérance de vie. Hein. Il faut voir que quelqu'un qui prend sa retraite à 62 ans a une vingtaine d'années à vivre, donc il faut qu'il ait accumulé de quoi vivre durant ces 20 années. En plus, ces 20 années sont incertaines, donc il faut que ce soit du viager. On ne peut pas laisser la liberté aux gens de se lancer dans ce processus. Hein. Il faut que l'État, au contraire, garantisse, dise aux gens, si vous cotisez comme c'est socialement décidé, on vous garantit une retraite d'un niveau socialement satisfaisant. Et de même, on ne peut pas donner aux gens la liberté d'avoir des pensions de réversion ou pas, parce que ça imposerait aux gens de se poser des questions trop délicates sur les espérances de vie comparées du mari et de la femme. On peut pas laisser aux gens la liberté de s'assurer ou pas contre la maladie, ou de s'assurer ou pas contre la dépendance. On peut pas laisser les gens, par exemple, dire « Moi, personnellement, je m'assure pas contre les maladies graves, parce que si je suis atteint d'un cancer, je me suiciderai immédiatement. » On peut pas laisser ce degré de liberté aux gens. Et donc, ce qui caractérise nos sociétés, c'est que on a des contrats types dans lesquels les gens doivent s'inscrire, et normalement les gens sont contents de s'inscrire dans ces contrats parce que comme ça ils n'ont pas à se poser des questions. Quand vous attendez un bébé, vous n'avez pas à vous poser la question est-ce que je dois m'assurer contre le risque qu'il soit handicapé, parce que le problème se pose pour toutes les branches, c'est-à-dire
pour les retraites, ça serait est-ce qu'on peut cotiser 20% de moins ou 20% de plus selon qu'on veut gagner plus durant sa vie active ou durant sa retraite.
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas d'abord parce que le principe d'un système par répartition, c'est que les cotisations que vous faites à un instant donné, ben, ça va à vos parents qui sont à la retraite. Et en échange des cotisations que vous faites à vos parents, vous aurez droit à une retraite qui vous sera assurée par vos enfants. Et donc ce contrat social n'est pas un choix individuel. Vous ne pouvez pas choisir de peu cotiser parce qu'à ce moment-là, comment on assurera la retraite de vos parents, on ne sait pas. Et quel droit voilà. Et donc, on ne peut pas laisser ce choix aux gens. Et par ailleurs, les gens ne souhaitent pas, avoir ce choix. En plus, bon, comme vous savez, on est dans un système social où il y a le minimum vieillesse et les minimums contributifs. Et donc, c'est peu compatible avec la liberté de choix. Sachant par ailleurs que naturellement, ce que je dis est valable pour la masse des salariés et que naturellement, bah, les cadres, à partir d'un niveau de salaire, ils peuvent choisir ou non de cotiser dans des formules de capitalisation. C'est pas on sort du social.
Alors concernant la fiscalité, quelles évolutions seraient souhaitables pour la fiscalité française ?
Ben, contrairement à ce qu'ont pu dire certains, la fiscalité française est extrêmement redistributive. Donc on prend beaucoup aux plus riches et on prend beaucoup aux revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Et donc, il n'y aura pas de grand soir fiscal dans lequel on va faire une grande réforme qui rendrait notre système plus redistributif. Notre problème, c'est qu'il faut protéger la redistributivité de notre système face à la mondialisation qui fait que les plus riches ont la tentation de se sauver à l'étranger ou de se faire taxer à l'étranger. Donc, les mesures qu'il faut prendre, c'est avant tout des mesures défensives pour lutter contre l'optimisation fiscale, contre la fraude fiscale, et sachant que il y a un arbitrage délicat à faire, qui est que dans un grand nombre de cas, pour le faire, il faut des accords internationaux, et que malheureusement, comme on est déjà un pays qui taxe le plus, c'est dur d'obtenir des accords internationaux. Qui ne nous oblige pas à réduire notre fiscalité. Donc, il faut détruire méthodiquement toutes les possibilités de fraude et d'optimisation fiscale. Garantir, par exemple, que la fiscalité, qu'il n'y a pas moyen d'échapper à la fiscalité sur les revenus du capital par la création de sociétés ad hoc qui empochent les dividendes et qui vous donnent du crédit. Il n'y a pas moyen d'y échapper en donnant aux enfants des titres qui n'ont pas subi la taxation des plus-values. Il faut des accords au niveau européen contre les grandes sociétés qui peuvent choisir de se faire taxer au Luxembourg, en Belgique, en Irlande ou aux Pays-Bas. Donc l'important, c'est surtout de réussir à maintenir le système français. Dans le système français idéal, c'est un système dans lequel les pauvres sont aidés par les allocations logement, un RSA généreux et donné largement. On a un impôt sur le revenu familial et redistributif, et puis et progressif, un impôt sur le revenu progressif. On fait payer des cotisations sociales à tous les revenus du travail. Les revenus du capital payent la CSG plus les prélèvements sociaux. Et puis, on maintient un taux d'impôt sur les sociétés relativement élevé qui permet progressivement de financer un niveau important d'investissement public et d'orienter l'investissement privé. Ce schéma idéal, il faut le protéger contre la mondialisation et contre l'Europe.
Mais du coup,
Il y a quand même 8% de pauvres en France, c'est-à-dire de gens qui vivent avec moins de quelque chose comme 800 euros par mois. Est-ce que c'est pas un problème? Enfin, est-ce qu'il faudrait pas justement une fiscalité plus progressive pour éradiquer la pauvreté?
Ouh là là. D'abord, la pauvreté n'a rien à voir avec la fiscalité en France, puisque la fiscalité porte sur les plus riches. C'est essentiellement une question de. Voilà. Donc
Enfin, la fiscalité permet de financer la protection
Oui,
sociale aussi.
d'accord. Oui, mais, bah, la fiscalité permet de financer la protection sociale. Bon, comme vous savez, bon, la France est actuellement de loin le pays où les prélèvements. Où la part des dépenses publiques est la plus élevée, donc on aura beaucoup de mal à en faire plus, bien qu'on peut effectivement souhaiter en faire plus, et donc effectivement il faudrait réussir à augmenter le revenu de solidarité active. C'est pas tellement une question de moyens, c'est une question de d'organisation, de trouver les formes qui permettent d'aider les plus pauvres. Vous savez que ce qui nous a tués dans la période récente, c'est tout le discours disant il faut maintenir un écart important entre le RSA et le SMIG. Qui fait que effectivement les gouvernements ont cru bon de ne pas revaloriser le SMIC, de ne pas revaloriser non plus les prestations familiales. Et effectivement, ce serait bien qu'un jour on ait un programme effectivement de lutte contre la pauvreté. Le problème, c'est qu'on n'en prend pas la direction, puisque
Mais comment
la gauche, enfin, socialiste, et l'UMP sont plutôt dans la direction. Ne pas augmenter le RSA, ne pas augmenter les allocations familiales, les prestations familiales pour inciter au travail.
Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on pourrait financer une augmentation du RSA?
La question qui est posée n'est pas tellement celle de financer l'allocation la hausse du RSA, la question est comment organiser l'ensemble du système pour que on ait un niveau de vie satisfaisant pour les plus pauvres, et puis on ait un écart satisfaisant entre le RSA et le salaire minimum. C'est une question ardu, qui pose pas seulement des questions de protection sociale, mais qui pose une question plus générale, qui est que nos sociétés ont vu disparaître un grand nombre d'emplois non qualifiés. Les emplois non qualifiés industriels ont disparu en raison de la concurrence des pays à bas salaire et de l'automatisation. Dans les entreprises, il y a toute une partie des emplois qui sont maintenant des emplois précaires, qui sont confiés à des sociétés de sous-traitance qui utilisent une main-d'œuvre précaire, des femmes en difficulté, des travailleurs immigrés. Et par ailleurs, on a une dislocation de la famille qui fait qu'on a beaucoup de femmes seules avec enfants. Et donc le problème, c'est comment on gère cette situation. Comme on a eu le discours dominant parmi les économistes porté par des gens aussi prestigieux que Cahus, Cayrault, etc., sans lesquels il faut baisser le salaire minimum. À partir du moment où on baisse le salaire minimum, eh ben, on est amené à baisser le RSA. On a créé ce problème qui est que on n'est plus dans une société où on assure à chacun un niveau de vie satisfaisant. Et par ailleurs, Il est très difficile dans une société ouverte comme la société française d'assurer à chacun un niveau de vie, d'assurer à chacun un niveau de vie satisfaisant. Donc nous bricolons, ce qui est pas glorieux. Et donc les bricoler, c'est d'une part rehausser le niveau de vie, le niveau du RSA, rehausser le niveau des allocations familiales. Il faudrait faire pression auprès des juges pour qu'ils augmentent les pensions alimentaires, leur dire clairement les pensions alimentaires doivent permettre un niveau de vie satisfaisant des enfants de divorcés, alors qu'actuellement ils sont beaucoup trop faibles.
Elles sont combien, voilà, les pensions alimentaires? Elles sont combien, les pensions alimentaires?
Les pensions alimentaires dépendent du juge.
Mais en moyenne.
Et donc, très souvent, on a des pensions alimentaires de 100, 150 euros, oui, qui sont, par enfant, qui ne sont pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait. Et donc, vous savez que la pauvreté parmi les enfants est plus élevée que parmi les adultes. On a résolu la question de la pauvreté chez les vieux, théoriquement, puisqu'on a un minimum vieillesse qui, en principe, est au-dessus du seuil de pauvreté. On ne l'a pas résolu chez les enfants parce qu'on a maintenu un RSA qui est trop bas, avec l'idée qu'il ne doit pas décourager l'activité. Et le problème, c'est que les enfants vivent avec des personnes d'âge actif et non pas avec des retraités. Et donc, on a un ensemble qui n'est pas tellement une question de somme en jeu, qui est une question d'organisation du système.
Et au niveau mondial, est-ce que vous avez des idées pour lutter contre la pauvreté?
Je n'ai aucune idée pour lutter contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Ce qui peut sembler Vous savez que on a des pays émergents, ces pays émergents, que ce soit des pays d'Asie, ont trouvé un moyen pour lutter contre la pauvreté qui est bien sûr tout à fait horrible. Ça consiste à dire, on s'insère dans l'économie mondiale, on vend pas cher, on regarde ce que nous savons faire. On utilise le fait que notre main-d'œuvre est pas chère. Et à partir de là, petit à petit, on se développe. Donc c'est le modèle chinois, c'est le modèle vietnamien. Effectivement, ça permet de lutter contre la pauvreté, puisque petit à petit, ces pays construisent un appareil industriel à notre détriment, mais voilà, ils luttent contre la pauvreté. À partir de là, se pose la question... Pour faire sortir les masses de la pauvreté, il faut que, en même temps que ce processus industriel ait lieu, il faut il faut augmenter les salaires, et puis il faut développer une protection sociale minimale. Et donc, la recette, c'est d'une part l'industrialisation, l'insertion dans le commerce mondial, et puis d'autre part, ce qui est contradictoire, la hausse des salaires et puis le développement de la protection sociale. Et donc, c'est comme ça que ces pays peuvent sortir de la pauvreté. Et nous, notre contribution, qui là aussi est une contribution contradictoire, c'est d'un côté, il faut accepter que ces pays nous vendent des produits à bas prix. Il ne faut pas mettre des barrières en disant on ne veut pas des pulls fabriqués au Vietnam. Et puis de l'autre côté, il faut leur dire l'avenir, c'est quand même que vous développez votre demande interne. Parce que pour avoir une économie mondiale qui se développe, il faut que chaque pays compte avant tout sur sa demande interne. On ne peut pas durablement avoir une croissance portée par la demande externe. Et donc, on a une... On doit avoir une position ambiguë envers ces pays.
Est-ce qu'il faudrait différencier les droits de douane en fonction de la politique redistributive de ces pays, la politique écologique.
Pas vraiment. Enfin, y a deux problèmes. Il y a deux problèmes différents. Hein. Il y a
Oui,
le
mais...
problème, un, est-ce que on peut pas dire aux Vietnamiens, on refuse d'acheter vos pulls parce que vos salaires sont trop faibles ou parce que y a pas de vos retraites sont trop faibles. Parce que, évidemment, d'abord, on n'a pas se mêler de leur organisation, et puis d'autre part, ben c'est leur avantage comparatif. Donc, ceci dit, bien sûr, il faut leur dire, ok, on achète vos pulls, mais vous devez vous inscrire dans un processus de croissance qui est que vous devez petit à petit augmenter les salaires et augmenter votre protection sociale. Et puis, bon, évidemment, si des pays comme la Chine ne jouent pas le jeu, s'ils accumulent des excédents, si la croissance ne profite qu'à une infime minorité, ben, il est normal de faire pression sur eux, par le G20, pour leur dire, ben, écoutez, ce que vous faites, ça ne va pas, quoi. Il n'y a pas que la Chine, hein, il y a l'Allemagne aussi, je veux dire. Un pays ne peut pas être trop compétitif et accumuler des excédents. Ensuite, il y a un second problème qui est que, naturellement, qui est encore plus compliqué, qu'il faudra un accord mondial sur l'environnement. Et dans le cadre de cet accord mondial, il faudra dire les pays doivent obligatoirement faire payer les émissions de gaz à effet de serre à un certain prix. Et puis, les pays qui ne le font pas devront être mis au ban des nations. Et puis, le gain que procurera cette taxation, il y a une partie qui doit être redistribuée aux pays du Sud, parce que ce sont les pays du Nord qui ont jusqu'à présent pollué la planète. Mais alors, cet accord mondial, il est très difficile, comme vous savez, à mettre en place parce que chaque pays a ses intérêts. Bon, il y a un coût qu'il faut supporter. Il y a un coût qu'il faut supporter. Et voilà. Et donc, on s'en. Et donc, naturellement, les pays du Nord vont dire, moi, je suis prêt à taxer fortement la pollution, mais je veux pouvoir utiliser l'argent pour réduire les cotisations sociales employeurs. Comme ça, j'aurai un double dividende. Les pays du Sud, ils disent, ah ben non, cet argent, nous, on en a besoin pour prendre les mesures nécessaires. Et si vous ne nous donnez pas l'argent, eh ben, on ne taxera pas nos industries polluantes.
Voici le fait que je vais présenter aujourd'hui. Les femmes sont moins riches que les hommes. En Allemagne, elles détiennent deux fois moins de patrimoine qu'eux. En France, en 2009, et la situation a peu progressé depuis, les hommes avaient un revenu 31% supérieur à celui des femmes. C'est en partie dû au fait que celles-ci sont 5 fois plus souvent en temps partiel. En équivalent temps plein, ils gagnent 16% de plus. L'écart s'explique aussi par les différences de poste, certains métiers féminins, comme les professions d'assistante, étant moins bien payés. Mais même en corrigeant pour tous ces facteurs, la discrimination pure amène les femmes à gagner 6% de moins dans les mêmes conditions que les hommes. La référence est un journal en ligne qui ne publie des articles que de gens connus, project-syndicate.org. Enfin la citation. Une économie planifiée qui adapte la production aux besoins de la société, distribuerait le travail à faire entre tous ceux qui sont capables de travailler et garantirait les moyens d'existence à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant. C'est de Albert Einstein.